Ne rien oublier, l'enfer de l'hypermnésie. Vous rêvez de vous souvenir de tout? Bon courage, c'est un enfer. Sur le spectre des troubles de la mémoire, à l'opposé de l'amnésie et d'Alzheimer, existe une autre pathologie tout aussi handicapante, l'hypermnésie autobiographique. Les cas sont extrêmement rares. Il n'y aurait que quelques dizaines de personnes touchées dans le monde. À la différence des champions de la mémoire qui travaillent leur mémoire, n'est-ce pas Fabien? Les personnes souffrant d'hypermnésie ne contrôlent rien. À partir d'un jour précis de leur enfance, elles se mettent à se souvenir de tout ce qui leur est arrivé. Tout ce qu'elles ont mangé, porté, lu, regardé ou entendu reste gravé dans leur mémoire. Les événements privés comme public. Un hypermnésique sait à quel jour de la semaine correspond chaque date du calendrier, ce qu'il s'est passé dans l'actualité et ce qu'il a fait de sa journée. Et ce n'est ni pratique, ni drôle à vivre. Dans leur cerveau, au moment de l'encodage, le tri et l'oubli qui vont avec ne se font pas. Probablement à cause des connexions dans l'hippocampe et l'amygdale qui seraient anormalement renforcées. Cela entraîne une surcharge mentale quasi insupportable, comme s'il y avait trop de bruit tout le temps. On ne peut pas tourner les pages d'un livre sans que les précédentes ressurgissent et polluent la lecture. Toute la journée, tous les jours, le moindre indice, une odeur, une couleur, une date, fait ressurgir des tonnes de souvenirs non choisis, inutiles et qui perturbent tout ce qu'on fait. D'ailleurs, être hypermnésique n'est pas un atout pour les études ou la vie professionnelle, bien au contraire. Les hypermnésiques n'auraient pas de mémoire sémantique. Dans leur cerveau, le processus de sémantisation que l'on a décrit plus tôt, les épisodes de notre vie qui se répètent et se transforment progressivement en savoir, est enrayé. Au lieu de se synthétiser, les informations ne font que se superposer, couche après couche, inutilement. Les chercheurs n'arrivent pas encore à comprendre la cause de cette pathologie qui s'accompagne souvent d'autres troubles cognitifs, comme des TOC, des troubles dys, dyslexie, dysorthographie, dysphasie ou autistique. Mais pourquoi certaines personnes ont-elles plus de mémoire que d'autres? La capacité de notre mémoire et nos oublis dépendraient-ils de facteurs génétiques? Tous égaux face à l'oubli? Même avec un patrimoine génétique identique, il n'y a pas deux cerveaux pareils. Chez les vrais jumeaux, les plis du cortex cérébral, rappelez-vous dans le premier chapitre, la double feuille à trois, froissée en boule pour tenir dans la boîte crânienne, sont différents, tout comme leurs empreintes digitales. Et pour cause, deux embryons avec le même patrimoine génétique, évoluant dans le même utérus, ne se développent pas exactement de la même manière. Malgré leur proximité, ils ne baignent pas tout à fait dans le même environnement chimique, donc ils subissent des influences légèrement différentes. Différences qui ne vont cesser de s'amplifier. En effet, notre corps n'est pas une photocopieuse infaillible et à chaque fois qu'une cellule se duplique, de petites modifications se glissent ça et là. Heureusement d'ailleurs, car le principe du vivant, c'est d'être mouvant. Les petites différences du début vont donc ainsi croître dans chaque embryon au fil de leur développement in utero. Faisons une analogie. Vous préparez deux gâteaux en parallèle dans la même cuisine. Il y aura forcément quelques grammes de farine en plus d'un côté et de sucre en moins de l'autre. Vous n'allez pas mélanger les deux blancs en neige avec exactement la même force ni pendant la même durée. Dans le four, l'un des deux gâteaux sera un peu plus proche de la source de chaleur que l'autre. Finalement, vous aurez beau être parti de la même recette, dans la même cuisine, vos deux gâteaux ne seront pas des clones parfaits. Les cerveaux de vrais jumeaux, c'est pareil. En partant du même patrimoine génétique et du même ventre, ils se ressemblent, mais ne sont pas identiques. Si de vrais jumeaux n'ont pas deux cerveaux identiques, ils n'ont pas non plus les mêmes capacités, ni les mêmes tempéraments. Ceci expliquant cela. Partant de là, on se doute bien que l'écart se creuse un peu plus entre frères et sœurs non gémellaires puis encore plus entre cousins. Alors que dire de votre cerveau par rapport à celui de votre voisin de pouponnière? Eh bien, vous appartenez à la même espèce. Donc, ils ont grosso modo la même structure et le même cycle de vie, mais il existe une infinité de variations individuelles. Pour la mémoire, c'est la même chose. Nous n'avons pas tous le même capital mémoire à la naissance. La bonne nouvelle maintenant, ça ne compte pas des masses. Tout dépend de ce que vous en ferez plus tard. Vous l'avez compris précédemment, la force de notre cerveau, c'est sa plasticité, sa capacité à se modeler pour s'adapter à notre environnement. Une plasticité synaptique, en fait, puisqu'en faisant, défaisant et transformant nos réseaux de neurones en permanence, les synapses sont les chevilles ouvrières de notre adaptabilité et de notre mémoire. Vous allez découvrir qu'en fonction de notre âge, notre cerveau et notre mémoire sont plus ou moins performants, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une marge de progression à tout âge. Oui, une mémoire fiable et durable se met en place durant la jeunesse, mais non, il n'est jamais trop tard pour l'améliorer. Notre hygiène de vie en particulier joue un rôle fondamental. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le concept d'épigénétique, voici le principe. L'expression de nos gènes est modulée par notre environnement. Par environnement, on entend notre alimentation, notre activité physique, notre sommeil, notre vie sociale, notre stress ou notre exposition à des polluants ou des toxiques. Une bonne hygiène de vie peut inactiver provisoirement ou durablement de mauvais gènes, comme ceux codant pour une maladie. Tandis qu'une mauvaise hygiène de vie favorisera leur expression précoce. Reprenons la recette du gâteau et faisons un concours entre vous et Christophe Michalak. La formation, l'expérience, la qualité des ingrédients, du tour de main, des ustensiles, du four, sans compter les perturbations ou les accidents de parcours. Tiens, c'est quoi cette odeur de brûlé ? Vont faire la différence. Même recette, mais des résultats différents. Un gâteau de chef d'un côté, un gâteau raté de l'autre. On peut ainsi jouer sur un certain nombre de facteurs pour protéger notre mémoire et notre cerveau du déclin lié à l'âge ou aux maladies. Les chercheurs parlent de réserve cognitive. Plus elle est importante, plus on retarde l'apparition des symptômes dus à la vieillesse ou à Alzheimer. Pour avoir une bonne réserve cognitive, il faut être exposé longtemps à une multitude de facteurs, pris séparément ou à court terme. Ils n'ont pas beaucoup d'effet. Premier d'entre eux, l'éducation. Dans une famille porteuse de gènes favorisant la maladie d'Alzheimer, l'âge d'apparition des symptômes dépendrait notamment du nombre d'années passées sur les bancs de l'école. Dans la population générale, selon le niveau d'études, on a noté jusqu'à 17 ans d'écart entre l'apparition des premiers symptômes. Pourtant, en regardant l'imagerie cérébrale, les lésions sont bien là, dans les deux cas. Mais elles ne se traduisent pas par les mêmes symptômes. De longues études n'empêchent pas l'apparition d'Alzheimer, mais la multiplicité des synapses et des réseaux développés pendant cette période permettrait plus tard de contourner et de compenser les effets de la maladie. Effet boomerang, lorsque les symptômes finissent par apparaître chez les surdiplômés, la maladie est à un stade déjà très avancé. Le déclin est alors plus rapide. Rassurez-vous, tout ne se joue pas à l'école. Il existe des facteurs sur lesquels on a la main toute sa vie. Les loisirs et l'environnement social, par exemple, sont primordiaux. Lire le journal ou des livres, écouter la radio, visiter des musées, bref, participer régulièrement à des activités stimulantes booste la mémoire de travail et la capacité de traitement des informations. Cela ralentit le déclin cognitif lié à l'âge. Si en plus vous faites ça en compagnie d'êtres chers, avec qui vous discutez beaucoup, vous décuplez l'effet protecteur. Et dans ce domaine, ce n'est pas la quantité des interactions sociales qui compte, mais leur qualité.
Cela me semble le bon moment pour vous parler des cartes mentales. Vous savez que l'on appelle aussi mind map en anglais. Comme le disait Michel, la stimulation cognitive est très importante pour votre mémoire et votre cerveau en général. Ma regrettée grand-mère, partie à 103 ans, avait une mémoire défaillante sur la fin de sa vie. Ce qui étonnait ma famille, c'est qu'elle pratiquait pourtant avec assiduité les mots croisés à longueur de journée depuis des dizaines d'années. La vérité, c'est qu'elle était devenue spécialiste des mots croisés. La spécialisation n'est pas ce que l'on attend pour améliorer nos capacités cognitives. Pour être stimulé, il faut sortir de sa zone de confort, découvrir, se confronter à de nouvelles choses. Vous en avez assez de lire, d'écouter des choses ou de faire des visites? Faites un escape game. Vous n'avez pas d'escape game? J'ai mieux, les jeux de société. Les jeux de cartes et les jeux de société sont les compagnons idéaux pour garder votre mémoire active et votre cerveau alerte. Usez-en, abusez-en, vous passerez de bons moments tout en améliorant vos différentes mémoires. Vous protégerez votre cerveau du déclin cognitif, du moins, vous ralentirez ce processus naturel. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si tous les mammifères apprennent en jouant. Et chance de notre époque, les concepteurs de jeux de société n'ont jamais été aussi prolixes. Il existe même des jeux de société se jouant seuls qui sont très fun. Oui, je joue parfois seul moi aussi, Michel ne veut jamais, il doit avoir peur de perdre contre moi. Pour apprendre, vous pouvez aussi utiliser votre capacité créative, des couleurs, des choses ludiques, comme nous allons voir dans l'astuce suivante. Astuce 10. Comment créer une carte mentale. Il est difficile de réduire les cartes mentales à une seule fonction. Vous pouvez utiliser cette astuce pour mémoriser, réviser afin de consolider un savoir, créer, structurer votre pensée, etc. Le but est de cartographier de manière visuelle une information complexe, plusieurs données liées les unes aux autres, pour atteindre votre but. Plus vous réaliserez de cartes mentales dans votre vie, plus cela vous semblera pratique, rapide et facile à faire. 1. Les fondamentaux. La première chose à savoir est que l'idée principale, le titre, l'objet de votre carte, doit être placé en son centre et imagé. Le centre doit être séduisant, attractif et coloré, idéalement sous la forme d'un dessin. Les branches, qui partent du centre, doivent être définies en fonction du nombre de ramifications que vous aurez identifiées. Comme pour l'apprentissage du texte par cœur, astuce 6, vous êtes obligé de faire fonctionner votre compréhension et votre sens de la synthèse pour cette partie. En clair, le processus de mémorisation commence au moment même où vous décidez de faire une carte mentale. Avec des tailles et des largeurs différentes, les branches vont être à la fois un lien entre deux informations et un sens de lecture. Elles vont également vous servir à donner une hiérarchie dans l'information globale en fonction de leur taille. Les ramifications de votre carte fournissent l'arborescence globale. Il ne faut inscrire qu'un seul mot par ramification, de préférence en majuscule, pour faciliter sa reconnaissance par votre cerveau. 2. Les trois règles d'une bonne carte mentale. A. Synthétiser l'information à l'extrême. Le fondement même de la carte mentale est de mettre à plat, de façon la plus claire possible, une information, puis d'en favoriser le stockage et la récupération. Comme je vous le disais, vous serez obligé de comprendre l'information et de l'analyser pour réussir à la résumer sous forme de concept. Plus vous êtes proche du centre de votre carte mentale, plus l'information doit être claire et simplifiée. Vous pourrez préciser des données dans les ramifications. Si, par exemple, je souhaite parler d'histoire, alors je mettrai les dates et les protagonistes secondaires dans des ramifications éloignées du centre. B. Attractif n'est pas toujours joli. On rêve tous de réaliser des œuvres d'art, mais lorsque vous préparez une carte mentale, ce n'est pas le but. Vous devez seulement vous concentrer à aider votre cerveau à encoder et retenir plus facilement les informations. Pour cela, il suffit de rendre votre carte mentale attractive. Par la couleur. Plus votre mind map sera agréable à regarder, plus elle sera efficace. Notre mémoire favorise la rétention des images et caractéristiques concrètes, plutôt celles des concepts. Vous pouvez également utiliser un code couleur qui vous appartient et qui fait sens avec le contenu de vos ramifications. Par la typographie, associez les mots les uns aux autres est l'un des fondements des cartes mentales. Améliorez votre système en imaginant des typographies originales, mais lisibles, ou en mettant en relief, gras, italique, souligné, des mots-clés. Par les dessins, Que vous ayez l'impression d'être Picasso ou d'être aussi doué que moi, et ce n'est pas un compliment, je suis pire qu'un piètre dessinateur, parsemez vos cartes mentales de dessins colorés. Grâce à eux, votre cerveau sera stimulé autant par le visuel que par le côté linguistique. C. Connaître le véritable sujet. Ne vous perdez pas à rentrer dans des détails inutiles. Une carte mentale doit être le reflet de votre pensée, la porte d'entrée de la pelote de laine que forment vos idées. Choisissez votre focus dès le départ. Si vous souhaitez créer un résumé d'une période historique couvrant une décennie, par exemple, vos détails ne seront pas les mêmes que si vous choisissez de couvrir un siècle. Vous êtes comme le réalisateur d'un film et vous allez décider de la puissance de zoom sur l'information. Cette astuce est une véritable porte d'entrée temporelle de l'information. Vous pouvez choisir d'utiliser la technique des cartes mentales pour apprendre une information, et donc traiter du passé, pour faire une prise de notes instantanée d'une conférence, d'une réunion, d'un cours, et donc traiter du présent, pour structurer votre pensée ou pour faire un brainstorming, présent et futur sont alors mélangés, pour organiser un projet, et donc traiter du futur, pour atteindre un objectif et trouver les moyens d'y arriver, encore du futur, etc. Les possibilités, comme tous les outils, ne dépendent que de vous. 3. Les principaux pièges. Il n'existe pas beaucoup de pièges, mais il y a quelques classiques que l'on ne voit pas toujours venir. Tout d'abord, la monotonie. C'est l'ennemi numéro un de la mémoire et, logiquement, de la carte mentale. Si vous vous contentez de relier des informations les unes aux autres avec quelques traits, vous allez créer un autre outil qui s'appelle le logigramme. Certes, c'est utile et pratique, mais cela n'a rien à voir avec les cartes mentales. Vous pourriez également être tenté d'utiliser des phrases, même courtes, plutôt qu'un mot-clé ou des mots-clés. Les mots-clés sont des portes d'entrée directes sur l'ensemble de vos pensées. Ils rebondissent dans votre esprit et ratissent large dans les connexions de votre mémoire. Évitez de mettre des expressions complètes, des phrases structurées. Pour terminer, ne considérez jamais que votre carte mentale est mauvaise. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de la réaliser du premier coup. Vous pouvez très bien prendre le temps de faire quelques brouillons, et tant mieux pour la mémoire, cela fait déjà office de répétition. N'oubliez pas, à aucun moment vous ne cherchez à créer une œuvre d'art. Votre seul but est de créer un outil utile, pratique, fonctionnel et ludique malgré lui.
Je reprends le fil de la réserve cognitive, notre capital mémoire. Pour l'augmenter, il y a aussi les grands classiques de l'hygiène de vie que nous déclinerons plus tard dans ce livre audio. Sommeil, détente, alimentation et activité physique. Oui, oui, on vous le rabâche maintenant depuis longtemps, mais je vous assure que leurs effets sur notre santé, notre cerveau et notre mémoire sont encore très largement sous-estimés. Ils sont nos premiers et principaux outils de prévention contre les trous de mémoire et les coups de mou, physiques ou mentaux. Une fois qu'on a dit ça, tout est question de dosage et surtout de mélange. Il faut varier au maximum ses activités, privilégier la nouveauté et être régulier dans sa pratique. Une personne avec Bac plus 12 mais sans amis ne sera pas forcément la mieux armée face à Alzheimer. Vous avez arrêté l'école très jeune, mais vous vous faites facilement des copains, des siestes, des randos ou des parties de Scrabble endiablées. Vous avez toutes vos chances. Ne lâchez rien et tentez le yoga, la méditation ou la natation synchronisée. Autre élément déjà abordé, pour préserver votre mémoire à long terme, il vous faut de bonnes capacités sensorielles. N'hésitez pas à changer vos lunettes ou à vous faire appareiller. À âge égal, un problème d'audition augmente le risque de déclin cérébral à long terme et de maladie d'Alzheimer. De manière générale, pour entretenir sa mémoire sur le long terme, il faut surveiller sa santé. Hypertension, diabète, cholestérol, surpoids et problèmes cardiovasculaires au long cours affectent nos capacités de mémorisation et sont des facteurs de risque pour Alzheimer. Plus surprenant, une mauvaise hygiène dentaire aussi. Si vous ne vous brossez pas les dents assez souvent, les bactéries se développent trop et provoquent une inflammation qui peut devenir chronique. Elle augmente alors les risques cardiovasculaires et les troubles cognitifs. Elle perturbe aussi vos sens du goût et de l'odorat, essentiels pour stimuler votre mémoire. Donc, pour répondre à la question posée, sommes-nous tous égaux face à l'oubli? La réponse est non. On a tous un capital génétique, une hygiène de vie et un environnement différent. Mais à la question « Peut-on tous améliorer sa mémoire ?», la réponse est oui. Encore faut-il connaître les étapes clés de sa construction. La grande histoire de notre mémoire est jalonnée d'oublis majeurs.